les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
Aujourd'hui, on vous parle d'un classique des séries western, Au nom de la loi, Wanted Dead or Alive, de son titre original. La série a été diffusée entre septembre 1958 et mars 1961 sur CBS. Elle compte 92 épisodes de 30 minutes. Steve McQueen joue le personnage central, Josh Randall. C'est la seule série à laquelle l'acteur a accepté de participer. À l'époque, la série est la première à choisir un chasseur de primes comme héros. Malgré la mauvaise réputation de ses personnages, le public adore et adhère. Sa réputation est connue jusqu'en France où elle sera la première à être diffusée le samedi soir à 20h30. Les directeurs de cinéma s'en plaindront d'ailleurs suite à la baisse de fréquentation des salles et demandent qu'elle soit remplacée dans la grille des programmes. La série ne semble pas avoir perdu de son aura. En 1987, le cinéma lui rend un bel hommage. Le film Mort ou Vif raconte les aventures de Nicholas Randall, l'arrière-petit-fils de Josh. Cela justifie peut-être qu'elle ait été colorisée en 1990. Ce sont les coloristes qui ont choisi de teindre la chemise de Josh Randall en bleu. En réalité, elle était beige, mais cette couleur ressortait mal sur le décor désertique. C'est d'ailleurs un peu bizarre de voir un chasseur de primes, pourtant avide de camouflage et de discrétion, porter ce type de couleur. La série a été à la fois bénéfique et dramatique pour Steve McQueen. Elle a littéralement lancé sa carrière, puisque c'est grâce à la renommée qu'il y a acquise qu'il a tourné Les Sept Mercenaires. Mais malheureusement pour lui, la série était sponsorisée par une marque de cigarettes et elle exigeait qu'il fume ses produits. Il est finalement mort d'un cancer du poumon en 1980. Si aujourd'hui les plus jeunes ne se souviennent pas de cette série et ne savent même pas qui est Steve McQueen, ils sont pourtant conscients qu'une carabine à canon scié, c'est le top du top comme arme, et ça, c'est un héritage de Nom de la Loi, Sarah.
En effet. Alors si tu permets, juste avant de commencer ce dossier, j'aimerais dédicacer cette émission au tout premier fan de AFDS que j'ai rencontré à Paris l'autre jour et qui s'appelle François Jadoul. Je pense qu'il appréciera le clin d'œil.
Il est fan aussi de Au Nom de la Loi ?
J'en sais rien, il nous le dira peut-être sur un forum, un de ces quatre. Alors comme tu l'as dit, Josh Randall étant un chasseur de primes, et dans l'esprit commun, nous disent les auteurs du guide du téléphone consacré à cette série, un homme qui en recherche un autre pour de l'argent ne vaut pas mieux que celui qu'il poursuit. Et donc effectivement, à l'époque, c'est quasiment prendre un anti-héros en guise de héros, chose qui ne se faisait pas nécessairement beaucoup. À l'époque, généralement, on aimait bien, tu vois, ceux qui étaient des grands justiciers gratuitement, comme Wyatt Earp et des choses comme ça. Mais les chasseurs de primes, on n'adorait pas des masses. Alors les chasseurs de primes, à l'époque de la conquête de l'Ouest, c'était presque une nécessité, puisque les shérifs ou les marshals ou les rangers, ça dépend un peu où on était, avaient un territoire immense à contrôler et un territoire incontrôlable par définition, vu qu'ils n'avaient pas encore été totalement colonisés. Donc généralement, quand quelqu'un avait fait des faits contre la loi, on placardait sur le mur du bureau du shérif une annonce, et vous voyez tous ce que ça peut donner, Wanted Dead or Alive, et n'importe quel citoyen pouvait s'emparer de cette affiche et rechercher le criminel. Donc n'importe qui, même des privés, pouvait devenir des justiciers d'un jour, si vous voulez. Mais des privés pouvaient aussi eux-mêmes lancer leur propre avis de recherche. Généralement, les compagnies de chemin de fer et de diligence qui avaient été les victimes des bandes organisées, les ouvriers se cotisaient pour payer des rançons pour les chasseurs de primes. Et c'est des choses qui se sont faites très souvent. Jesse James, par exemple, était arrêté de cette manière parce que c'est la compagnie des chemins de fer qui avait demandé qu'on l'arrête. Généralement, les chasseurs de primes, et c'est pour ça qu'ils avaient très mauvaise réputation, préféraient tuer les criminels qu'ils recherchaient plutôt que de les ramener vivants et d'avoir des problèmes avec eux, évidemment.
C'était peut-être aussi plus commode.
C'était plus commode. Mais donc, c'était très mal vu au niveau du public, puisque parfois, les criminels s'avéraient être des innocents, par exemple. On qualifie donc Josh Randall d'anti-héros à ce propos-là. Et d'ailleurs, c'est un caractère très souvent souligné dans la série. Il est un chasseur de primes pour la prime avant tout. C'est donc pas un justicier au grand cœur et c'est pas des grandes valeurs morales ou d'ordre qui le font travailler, mais bel et bien cette prime. Et d'ailleurs, il ne travaille généralement que quand il est fauché et qu'il n'a pas pu gagner un peu de sous au poker. Il est aussi très fâché quand on lui fait perdre son temps, comme par exemple quand il recherche un homme qu'il ramène et qui s'avère être innocent et que donc il ne reçoit pas la prime. Et finalement, le seul principe moral qui conduit un petit peu ses actes, c'est que lui, contrairement au réel chasseur de primes, préfère ramener les criminels criminel vif plutôt que mort. D'ailleurs, un jour, il doit tuer un des criminels qu'il ramène. Et en ramenant son cadavre dans la ville près du bureau du shérif pour avoir la prime, il va tout de suite après à l'église pour avouer son péché. Mais malgré tout, c'est pas pour ça que c'est quelqu'un de très sympathique. Il a une réputation bien établie et il fait peur. Et il joue d'ailleurs là-dessus. C'est l'histoire du canoncier. Quand on voit le canoncier, on sait tout de suite que c'est Josh Randall et on a peur. Josh Randall est aussi un héros solitaire. On lui connaît pas de famille, on lui connaît pas de petit ami fixe. Il tombe en fait amoureux une fois, mais la fille meurt à la fin de l'épisode. Ça, c'est classique. Il n'a pas d'amis, pas de compagnon de route. Vous l'aurez compris, on est bien face à une série et pas un feuilleton. Un retour du même. Il n'y a jamais aucun élément feuilletonesque qui permet de faire un lien entre les épisodes. Et même parfois, on casse le retour du même par le fait que c'est pas toujours un homme qui recherche. Une fois, il recherche une brebis. Une autre fois, il recherche le Père Noël pour un petit garçon. Ça lui arrive aussi par exemple de protéger un diamant qui doit être transporté par une compagnie de courrier ou qui doit retrouver l'identité d'un homme qui est amnésique. Donc c'est pas toujours, pour casser un peu la lassitude, c'est pas toujours un homme qui doit rechercher et ramener auprès du shérif.
Mais on est généralement toujours dans le même schéma.
Oui, toujours dans le même schéma. Et c'est vrai que les séries de ces années-là fonctionnaient beaucoup sur les retours des mêmes schémas. Alors Josh Randall, c'est aussi quelqu'un de très taciturne et de très secret. On ne sait pas grand-chose sur son passé. Il n'a d'ailleurs, semble-t-il, pas de lourd secret derrière lui, pas d'enfance particulièrement difficile. Et d'ailleurs, les auteurs du Guide du Téléphone disent qu'on peut carrément dire que Randall n'existait pas avant d'être un chasseur de primes. Finalement, tout ce qu'il donne comme élément sur son passé tient dans un dialogue rapide. Et je vous invite d'ailleurs à l'écouter, puisque c'est l'extrait que j'ai choisi de vous passer maintenant.
14 et 1500 dollars. Je ne vous paie pas Carl, ainsi qu'on en avait convenu.
Oui, bien sûr.
Je dois cependant des excuses.
Je vous en remercie.
Je le fais au nom de tous.
Très bien. Vous voudriez me rendre un petit service ?
Si c'est possible, oui.
Vous pourriez remettre ça à la veuve du shérif sans dire d'où ça vient ?
C'est pas évident, mais j'ai toujours essayé.
Vous trouverez bien un prétexte.
Une subvention, peut-être ?
Voilà.
Joss, j'ai entendu un tas de choses sur vous. Pas très souvent bien, je dois dire. Et cependant, malgré nos fausses accusations, vous trouvez encore le moyen de faire un joli geste. Il me semble que si ça venait à s'ébruiter, vous seriez plus populaire.
Sûrement, seulement je pourrais ainsi faire moins peur. Et ça, j'y tiens pas.
Mais dis-moi, je me trompe ou c'est bourré de testostérone ce dialogue ?
De testostérone cow-boy en plus. C'est vrai que c'est pas la série qui casse le plus les stéréotypes qu'on a sur le genre et Steve McQueen lui-même doit probablement être un stéréotype. Enfin, à l'époque, c'était un inconnu, mais bon, depuis, c'est plus du tout un inconnu et il porte...
Stéréotype à lui tout seul.
Ouais, voilà. C'est un inconnu, comme je viens de le dire, et c'est même un choix un peu bizarre, parce qu'on peut pas dire que franchement, il a le physique de l'emploi. Si on part du principe que les chasseurs de primes ne sont pas aimés... Il a un physique de jeune premier, finalement, ça colle pas. On verrait plutôt un type avec une tête patibulaire.
Mais c'était peut-être justement une bonne idée de l'utiliser à contre-emploi.
En fait, c'est exactement ce que Vincent Fenley voulait. En tout cas, c'est ce que le guide du téléphone nous apprend. Il voulait un petit mec qui avait l'air assez dur pour faire ce job, mais qui en même temps avait assez de vulnérabilité pour que le public prenne son parti, fait et cause pour lui. Et il trouvait que, pour lui, un chasseur de primes, c'est un pauvre type avant tout, et que tout le monde est contre lui, et qu'il aurait bien voulu que les téléspectateurs prennent justement sa défense. Et il trouvait que Steve McQueen avait tout à fait le physique de cet emploi-là, en tout cas, parce qu'il pouvait, dit-il, à la fois ronronner et montrer ses griffes en même temps.
C'est fort probable que s'ils avaient pris une grosse brute toute simple, le public n'aurait peut-être pas adhéré.
Mais ça aurait fait beaucoup, en tout cas. Non seulement ça aurait été un chasseur de primes, mais en plus une grosse brute, à mon avis, ça n'aurait pas tout à fait fonctionné. Mais bon, à l'époque, Steve McQueen signe sans grande joie. Lui, ce qu'il veut faire, c'est du cinéma. Et il a très peur de la routine de la télévision. Et en plus, il n'apprécie pas particulièrement ni les westerns, ni encore moins les chevaux, ce qui est un peu un problème dans ce cas-là, parce qu'il passe la moitié du temps à cheval. Mais bon, à ce moment-là, il a besoin de sous, donc il accepte le rôle. Et à partir du moment où il l'accepte, il décide d'en faire vraiment quelque chose. Donc il accepte, mais il s'investit. C'est lui, par exemple, qui va trouver le chapeau un peu élimé de Josh Randall. Donc généralement, les cow-boys, c'est le beau Stetson qui brille. Lui, il décide qu'un chasseur de primes, c'est quelqu'un un peu pourrave et donc il lui faut un couvre-chef un peu élimé. Et c'est un ancien cow-boy qui lui a donné son chapeau. C'est aussi lui qui a l'idée de scier le canon de la Winchester. Donc généralement, les cow-boys, c'est des Colt 45. Mais lui, il trouve que ça change un petit peu et que c'est pas plus mal. Donc non seulement il scie le canon, mais il faut aussi changer la crosse. Apparemment, c'était une arme qui était du coup très difficile à manier. Les auteurs du guide du téléphone, encore une fois que je cite, disent que l'engin obtenu est carrément illégal, est une aberration balistique, mais que finalement il trouve sa place dans cette espèce d'imaginaire de l'Ouest américain et du chasseur de primes, etc., de la réputation et tout ce que tu veux. Et c'est vrai, finalement. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit dans l'introduction, ce dont on se souvient maintenant, c'est la carabine au canoncier. Je sais que mes frères, quand on jouait au cow-boy, voulaient des carabines au canoncier, et pourtant on n'avait pas vu au nom de la loi. Et en plus de ça, Steve McQueen pousse la perfection jusqu'à s'entraîner et devient d'ailleurs l'un des meilleurs tireurs de l'Ouest, puisqu'à l'époque, il y avait des petites compétitions entre les acteurs. À partir du moment où il est dans ce rôle, il a de plus en plus d'exigences. D'abord, il commence par virer le cheval sur lequel il devait monter parce qu'il trouvait qu'il était un peu trop lent. Il en acquiert un nouveau, à peine dressé, qui est carrément indomptable et qui n'arrête pas de ruer dans le matériel ou d'essayer de le mordre. Donc, il ne s'est pas fait beaucoup d'amis par ça non plus. Mais il va de nouveau, malgré le fait qu'il déteste les chevaux, commencer à s'entraîner et va d'ailleurs devenir un cavalier émérite. Il a d'ailleurs tourné beaucoup de westerns après.
Lui qui n'aimait pas le genre. C'est quand même paradoxal. Voilà. Ça l'a amené à tout finalement.
En plus de ça, ses exigences vont monter avec le temps. Il va refuser certains choix. Par exemple, les scénaristes voulaient faire de Randall un héros invincible et un peu idéaliste, c'est-à-dire casser ce côté vénal du personnage. McQueen a toujours refusé ça. Il a toujours voulu que Joss Randall garde un côté fragile et le goût de l'argent. On peut presque dire qu'il commence à avoir des désirs de star, finalement. Et c'est d'ailleurs normal, puisqu'il en est devenu une entre-temps. Il faut savoir que son contrat lui permettait de tourner des films à côté, tant que ça ne perturbait pas les tournages. Et il décroche un second rôle dans La proie des vautours avec Frank Sinatra et Gina Lollobrigida en 59. Sa prestation est totalement saluée. Et John Sturge, suite à cette prestation, le choisit de nouveau en 1960 pour filmer le mythique Les Sept Mercenaires, et donc il est une star.
Justement, ces exigences de star ont permis à la série de garder la qualité du début à la fin.
Je pense effectivement que c'est ce qui a permis à la série de ne pas devenir un bête western stéréotypé avec un héros au grand cœur. Donc comme on le disait, Steve McQueen par la suite ne tournera plus jamais de série télévisée. Il va encore tourner deux fois le rôle d'un chasseur de primes dans The Hunter de Buzz Kulick et dans son tout dernier film, qui est un film qui raconte l'histoire vraie de Tom Horn. Et puis aujourd'hui, c'est évidemment plus par ses films que par Au nom de la loi que Steve McQueen est connu. Hein, vu La Grande Évasion, Le Kid de Cincinnati, L'Affaire Thomas Crown, je pense qu'il a enchaîné les succès. Au nom de la loi a donc donné de l'ampleur à sa carrière. Comme tu disais, l'a un peu orienté sur le western, une image qu'il a pu casser, parce que par exemple, il a joué dans La Tour Infernale ou dans Le Mans, qui se tourne pendant le Grand Prix du Mans. Malheureusement pour lui, Au nom de la loi a aussi mis fin à sa carrière, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, la série était sponsorisée par la marque de cigarettes Viceroy, qu'il était prié de fumer, et qu'il est mort d'un cancer du poumon. Donc bon, Steve McQueen, Au nom de la loi, c'est vraiment une histoire fusionnelle, je vais dire.
Dieu a entendu nos prières, Monsieur Randall, et vous a ramené sain et sauf. Loué soit le nom du Seigneur. Vous avez notre eau.
Ah, la voici, Elder. Enfin, ce qu'il en reste.
On l'a ouverte et il n'en reste plus que quelques gouttes.
Bah oui, j'étais sur
la
piste.
Vous permettez. Je m'appelle John Bescombe, inspecteur de la compagnie des messageries de Tucson. Vous dites que vous et votre congrégation avez prié pour la vie de Randall.
Bien sûr, mais...
Eh bien, je vois que le Seigneur vous a entendu. Le voleur a abandonné M. Randall dans la montagne pour qu'il meure de soif. Mais il a trouvé cette eau providentielle qui l'a sauvé de la mort. C'est de l'eau miraculeuse, Elder Boone.
Oui, le Seigneur l'a envoyée pour sauver une vie. Et cela rend ses gouttes plus précieuses pour consacrer notre Église. Monsieur Randall, comment pourrais-je... Monsieur Randall.
Il m'a dit qu'il voulait vous remercier, Elder. Et il m'a chargé de vous remettre ceci.
C'est un mandat de $1,000.
C'est l'argent qu'a rapporté ce travail à Randall.
Mais pourquoi? Il a risqué sa vie, c'est assez
il
comme
ça. Il prétend qu'il aurait eu des scrupules à le dépenser. Parce que s'il n'y avait pas eu votre eau bénite, il n'aurait pas été là pour le recevoir.
Alors, les westerns à la télévision, c'est quand même bien d'en dire quelques mots. En fait, il faut savoir que le western est présent dès le début de la télévision et aux États-Unis, c'est un genre important. On a un peu de mal à s'en rendre compte ici parce que tout n'a pas été diffusé en Belgique et en Europe et en France, mais aux États-Unis, c'est un genre assez important.
Mais nous, à part La Petite Maison de la Prairie, on n'a pas eu grand-chose. Hein, peut-être Bonanza, éventuellement.
Alors, Christian Gonzalez, auteur d'un Que sais-je sur le western, prétend qu'en fait, la télé a d'abord racheté des stocks de films de série B avant avant de passer à sa propre production, et lui dit que généralement, les productions télévisées sont très hâtives, des situations archi-conventionnelles, toujours la même chose, donc en gros, il n'adore pas. Je suis pas certaine que les choses soient aussi simples que ça. D'ailleurs, j'ai fait une petite liste qui va se retrouver sur Internet, vous allez voir, ça va un peu dans tous les sens, donc c'est un peu simpliste de dire que la télé reprend ce que le cinéma fait en moins bien. Par contre, c'est vrai que c'est pas nécessairement dans le western télévisé qu'on trouve les choses les plus intéressantes non plus. On se rend compte déjà, quand on parcourt la liste que j'ai faite avec le dictionnaire de Jean-Jacques Jolot-Blanc, d'ailleurs, ce qui veut dire que je n'ai que ce qui a été diffusé en Europe, on remarque assez vite que le western apparaît dans une époque assez limitée, qui couvre en gros les années 50 et 60, et qu'ensuite, le nombre de westerns à la télévision ne cesse de décroître assez vite. On passe par exemple de 17 ou 19 séries dans les années 50 et 60 pour une dans les années 90. Et une dans les années 2000, mais ça j'en reviendrai plus tard puisque c'est Ed Wood et que je compte faire un dossier là-dessus un peu plus tard dans l'année. On remarque aussi qu'il y a une assez grosse coupure entre les années 70 et les années 80 puisqu'il y a dans les années 80 trois séries qui apparaissent en 89, donc à la fin. Ce sont Les Deux Font la Loi, L'Équipé du Pony Express et Diligence Express qui sont un peu décalées et c'est pas vraiment des histoires de cow-boys et d'indiens. Donc finalement, les séries à la télévision montrent ce qu'on a déjà vu pour le cinéma, un déclin à partir de la fin des années 60.
Est-ce qu'on peut expliquer ce déclin ne fût-ce que par le coût d'une telle série? Parce que c'est clair qu'une série western, il faut beaucoup de figurants, il faut des décors en site naturel, on va dire. Donc c'est des séries qui coûtent relativement cher. On l'a vu notamment avec Ed Wood, dont on parlera plus tard, qui est une série qui peut exister justement parce que c'est HBO et que HBO veut bien mettre des fonds dans ce type de série. Mais
c'est peut-être l'un des problèmes, mais comme le problème est le même au cinéma où on a pourtant les budgets, j'ai l'impression que le western est un genre populaire qui fait partie d'une certaine époque et d'une certaine mentalité et qui passe à un moment. D'ailleurs, au cinéma, on voit qu'à partir des années 50, avant, on avait des héros tout blancs et tout gentils face à des mauvais indiens. À partir des années 50, le western se pose des questions sur lui-même, remet en question ce rêve américain qu'il a toujours véhiculé, notamment réhabilite l'indien, et qu'à partir de ce moment-là, même au cinéma, on a de moins en moins de films, et finalement, actuellement, à part les Danses avec les loups, je vois pas très bien quel western on a. Donc, à mon avis, c'est aussi dû aux mentalités. C'est peut-être dû au budget, mais il n'y a pas que ça. Alors on retrouve à la télévision ce qu'on voit au cinéma. Les mêmes personnages, les mêmes stéréotypes, les mêmes fringues, des trappeurs, des shérifs, le chemin de fer, les diligences, les pionniers, les fermiers, les soldats, les indiens, des chasseurs de primes, des femmes qui n'ont pas toujours des rôles très intéressants. La catégorie la plus représentée à la télé, c'est celle des représentants de la loi, shérif, marshal, autre ranger, et puis ensuite les pionniers, les fermiers. On peut se dire que finalement, les représentants de l'ordre, qui sont toujours maintenant les séries les plus représentées à la télé, ce sont les policiers, on voit que quel que soit le genre dans lequel on est, c'est ça que la télé aime le plus. Ça me paraît intéressant à dire pour voir ce que la télé aime bien, ce qu'elle n'aime pas. Et on voit aussi avec les pionniers et les fermiers que ce sont souvent des sagas familiales. Tu parlais de La Petite Maison tout à l'heure, il y a eu Bonanza, il y en a eu plein finalement. C'est très proche de ce qu'on peut voir dans les soap opéras actuelles. À mon avis, ça dit des choses sur la télévision. À côté de ça, on a des choses un peu plus diverses. Alors, on a des chasseurs de primes qui apparaissent par exemple deux fois, ou des choses un peu plus rigolotes comme les agents gouvernementaux des mystères de l'Ouest, par exemple. On remarque là aussi qu'après les années 50 et 60, ça se simplifie. Alors qu'on avait plein de personnages très différents dans les années 50 et 60, dans les années 70 et 80, il reste les shérifs, les pionniers, les indiens. Donc non seulement on a moins de séries, mais en plus elles sont plus simplistes. Josh Randall est un héros original, finalement on s'en rend compte, ils annonçaient dans les pubs que Josh Randall était le premier chasseur de primes de l'écran, et c'est vrai. C'est effectivement le premier chasseur de primes, c'est l'un des rares aussi. Un anti-héros comme on l'annonce à l'époque. Aujourd'hui, on a un peu de mal à le considérer comme un anti-héros. Depuis, on a vu quand même des personnages racistes, alcooliques. Alors, Andy Sipovic de New York Police Detail premier, je pense qu'avec Vic Mackey en 2002 de The Shield, Randall à côté, c'est un enfant de cœur. Il faut aussi pouvoir remettre les choses dans leur contexte. On était dans les années 50 et ce qui nous paraît aujourd'hui bateau venait d'être inventé à l'époque. Donc, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. La série, parfois, paraît un peu légère. Les intrigues sont rapides, pas toujours approfondies, prévisibles. Fort répétitives, effectivement, mais alors des charges, c'est 25 minutes. Et je pense que si on faisait aujourd'hui cette série-là, on lui donnerait une heure, facilement. Et que 25 minutes, c'est pas évident. Il faut effectivement aller très vite. Évidemment, les premiers à subir les conséquences de cette rapidité, ce sont les personnages secondaires qui sont généralement très stéréotypés, notamment les femmes qui sont en gros des femmes de saloon et c'est tout, avec qui on est sympathique parce qu'on est un homme droit dans l'âme, etc. Enfin, pour un téléspectateur du 21e siècle, c'est toujours un peu bizarre de regarder des morts par balles qui ne saignent pas du tout. Effectivement, surtout quand on a vu par exemple The Shield. Mais bon, je suis pas sûre non plus que ça soit une évolution de voir du sang partout et le taux d'hémoglobine qu'on nous donne actuellement, je suis pas sûre que ça soit bien non plus.
Mais la bonne preuve, c'est que Derrick plaît toujours.
Oui. Dans un autre style. Et c'est là qu'on se rend compte aussi que la télévision est bel et bien un média qui évolue avec son temps, avec les mentalités, avec les capacités de lecture du public et la technologie. C'est là qu'on voit qu'il est difficile de regarder une série des années 50 ou 60 sans être averti en tout cas. Mais je pense que le western fait partie, qu'on le veuille ou non, de notre culture et au nom de la loi. Comme je l'ai dit plus haut, grâce à la carabine à canonnier, je pense fait partie des mentalités, fait partie de notre culture.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.